Chapitre 19. Après une nuit sans sommeil, tourmentée des nouveaux chagrins qui venaient l'assaillir, Mary s'était endormie au point du jour, et 8 heures sonnaient à l'église du voisinage lorsqu'elle se réveilla. Elle s'habilla vivement et courut chez Marguerite, à qui la veille elle avait promis d'aller voir la pauvre Alice et de lui en rapporter des nouvelles, afin de lui dire qu'il était trop tard pour qu'elle pût faire cette course, et qu'elle n'irait chez Jeanne qu'en sortant de l'atelier. Mais Job était seul quand elle entra chez lui. « Marguerite, lui dit-il, ah bien oui, il y a déjà 2 heures qu'elle est chez les Wilson. Est-ce qu'elle a pu y tenir avec son inquiétude? Tu as bien dit hier que tu irais ce matin. Mais n'importe, il a fallu qu'aussitôt levée, Marguerite y courut. » Mary, se trouvant elle-même en faute, quitta le vieux Job et se dirigea vers la maison d'Alice, sentant bien qu'elle ne serait pas tranquille avant d'y être allée. Tout en mangeant la croûte de pain dur qui composait son déjeuner, elle pressa le pas et se souvint plus tard d'avoir vu des groupes nombreux arrêtés dans les rues, où l'on paraissait écouter avidement quelques nouvelles importantes. Mais alors, préoccupée d'Alice et des reproches que lui ferait Miss Simmons pour arriver si tard, elle ne fit aucune attention à ce qui se passait autour d'elle. Son cœur battit bien fort quand elle approcha de la maison de Jeanne. Peut-être Jem y était-il. Cette pensée, qui, dans son inquiétude pour Alice, ne s'était pas encore présentée à son esprit, colora ses joues d'une vive rougeur et la fit s'arrêter un instant. Mais Jem n'y était pas. Sa mère déjeunait machinalement en essuyant quelques larmes, et Mistress Davenport savonnait dans un coin de la chambre un vieux bonnet qu'à sa coupe surannée, Mary put reconnaître pour appartenir à la malade. Celle-ci était à peu près dans le même état que la veille, et bien qu'elle eût perdu la mémoire du présent et ne reconnut personne, Mistress Davenport conduisit Mary auprès d'elle, car chez les pauvres, nulle considération étrangère ne s'oppose au désir que l'on éprouve de voir l'ami qui souffre et dont l'état vous inquiète. Alice était couchée dans le meilleur lit qu'il y eut dans la maison. Marguerite la gardait, attentive au moindre bruit. « Il faut que je m'en aille, » dit Mistress Davenport, « mais je reviendrai ce soir, et je lui repasserai son bonnet, car ce serait une honte de lui en voir un sale maintenant qu'elle est malade, elle qui, sa vie durant, a toujours été si propre. » Et descendant bien vite, elle laissa Mary dans la chambre avec Alice et Marguerite. « Écoute, » dit l'aveugle qui s'était levé, en reconnaissant le pas de la jeune fille, « c'est du délire, mais je crois entendre que son esprit n'est pas triste. À son visage, tu dois voir si les idées qu'elle a sont un chagrin pour elle. » Qu'est-ce que dira notre mère? Balbutia la malade. Les abeilles sont rentrées à la ruche, et nous ne sommes pas prêts d'être rendus au cottage. Ah, c'est un nid de linotte qui est là, dans les branches. Prends garde, tiens, vois-tu la mère sur ses œufs? Comme son regard est brillant, chère mignonne, elle ne s'envolera pas. Mais dépêchons-nous donc. Quel beau fagot de bruyère nous avons ramassé. Vite, Sally, pressons le pas. « Maman sera bien contente, et nous aurons des pétoncles à souper. J'ai vu l'homme qui les apporte avec son âne. Il venait par là-bas, du côté d'Anside. » Elle s'arrêta un instant, et sa figure exprima le repentir. « Oh, Sally, » reprit-elle d'une voix triste, « elle croit que nous sommes restés à l'église tant qu'a duré le service, et nous l'avons trompée. Nous aurions dû lui dire comme quoi l'aubépine sentait si bon par la grande porte ouverte, et que nous étions au dernier banc de la nef. Puis que ce beau papillon était le premier que nous ayons vu ce printemps, et qu'il était entré jusque dans l'église même. Oh, maman est si bonne, nous avons eu bien tort de ne pas tout lui avouer. Je vais le lui dire dès que je m'en vais la voir. » Et une larme glissa lentement le long de sa joue ridée, au souvenir de cette faute. Il fallait que depuis lors, bien peu de péchés eussent chargé sa conscience. « Elle est heureuse, » dit Mary à voix basse. « Oh oui, » répondit Marguerite. « Elle ne sait rien de l'état où elle se trouve, mais elle a besoin qu'on la veille. Et que je suis triste d'être aveugle. Je serai restée pour la garder cette nuit. » « Je reviendrai, » dit Mary. « Oh, je t'en prie, n'y manque pas. Je tâcherai de venir. » Peut-être que Jem aussi passerait la nuit près d'elle, et Jeanne pourra se coucher. Elle n'a pas dormi de la nuit dernière, car elle venait de se mettre au lit quand Jem est rentré sur les 3 heures, et rien que sa voix la réveillait tout de suite. À 3 heures? Mais où donc était-il pour revenir aussi tard? Je n'en sais rien. Ce matin, il est monté, et j'ai compris à sa voix qu'il était triste, et comme tout abattu. Peut-être qu'en lui parlant, tu pourras le consoler, dit Marguerite. Un rayon d'espérance glissa dans le cœur de Mary. Bienheureux soir. Jem viendrait. Elle le reverrait enfin. Oh, qu'elle voudrait y être, et que de longues heures à passer d'ici là. Elle se leva pour partir, et regardant Alice, elle se reprocha sa joie. Mais en dépit d'elle-même, elle se sentait heureuse, et ce fut d'un pas léger qu'elle gagna l'atelier. Elle était en retard, elle le savait. Miss Simmons grondait, fut d'une humeur massacrante. Elle s'y attendait bien, et s'était promis de l'adoucir en se montrant plus empressée, plus attentive qu'à l'ordinaire. Mais ses compagnes avaient quelque chose de mystérieux qu'elle ne pouvait comprendre. Sally, en la voyant entrer, avait interrompu subitement le récit plein d'intérêt qu'elle était en train de faire, et tous les yeux s'étaient fixés sur elle avec un regard étrange. Puis les chuchotements avaient recommencé quelques instants après, et malgré ses préoccupations, elle avait cru comprendre qu'il était question d'elle. Enfin, Sally avait pris un certain air pour lui demander si elle savait la nouvelle. « Non ? De quelle nouvelle parlez-vous ? » Les jeunes filles se regardèrent, et Sally continua. « Vous n'avez pas entendu dire que le jeune Mr. Carson a été assassiné hier au soir ?» Mary ne put pas répondre. Sa pâleur et son effroi dirent assez qu'elle n'en avait rien su. Elle n'aimait pas Henry, et depuis quelque temps ses menaces le lui faisaient craindre. Mais en apprenant cette mort affreuse, elle ne put se défendre d'une émotion poignante qui lui donnait le vertige. Peut-être même se fut-elle évanouie si Miss Simmons, qui entrait en ce moment, ne l'eût ranimée en faisant pénétrer l'air frais du dehors dans l'atelier, et n'eût remonté son esprit défaillant par quelques paroles un peu vives sur la négligence qu'elle apportait à son travail. Puis, tout en s'asseyant et en prenant son ouvrage. « Savez-vous ce qu'on raconte sur cette horrible affaire ? » demanda-t-elle à Mary. « Non, madame, c'est ici que je viens de l'apprendre, » balbutia la pauvre fille d'une voix presque inarticulée. « C'est étrange pour une personne que ça touche de si près. J'espère bien du reste que le meurtrier sera découvert et pendu, un si charmant jeune homme, et une mort si affreuse. Ce misérable assassin, je veux le voir à la potence, comme le cruel Aman. »
Sally rappela que les assises s'ouvraient le lundi suivant.
« Oui, » répliqua Miss Simmons, « le marchand de lait m'a même dit que l'assassin serait jugé avant la fin de la semaine. »
Et toutes les jeunes filles racontèrent à l'envi ce qu'elles savaient du meurtre et de la victime.
« Miss Burton !» s'écria tout à coup la maîtresse avec emportement. « Des larmes sur la robe neuve de Mistress Hawkes! Est-ce que vous ne savez pas que ça fait des taches sur la soie ? Faut-il se désoler comme un enfant parce qu'un joli garçon vient à mourir ? Fi, quelle honte ! Pensez, Miss, à votre réputation, et s'il vous plaît, à votre ouvrage. Et tenez, puisqu'au lieu de m'écouter, vous ne pleurez qu'un peu plus fort, prenez cette indienne-là, au moins ça ne craindra rien. »
La conversation roula de nouveau sur le sujet qui occupait toute la ville. Les ouvrières qu'on envoyait en commission revenaient en toute hâte pour raconter ce qu'elles avaient appris dans les boutiques sur l'enquête du coroner. Les ladies, qui entraient dans l'atelier pour voir où en était leur robe, parlaient d'abord de cet affreux événement et mêlaient aux recommandations qu'elles adressaient à Miss Simmons les détails qu'elles avaient pu recueillir sur l'assassinat du malheureux jeune homme. Toutes ces variantes, plus ou moins vraies, de la sanglante histoire qu'on répétait auprès d'elles, produisaient sur Mary l'effet d'un horrible cauchemar. Il lui semblait voir passer devant ses yeux le spectre livide de celui qu'elle avait connu si brillant et si beau. Et la terrible vision prenait tout le caractère d'une réalité saisissante, tandis que les objets dont elle était entourée ne lui apparaissaient qu'à travers un nuage. Pourtant, les paroles de Sally arrivaient à son oreille au milieu des bruits confus qui bourdonnaient dans sa tête.
« Pauvre gentleman !» s'écria la mauvaise fille, après avoir raconté la dernière entrevue de Mary avec Mr. Carson.
« Quelle honte ! » répondait-on avec indignation.
Et dire qu'il est maintenant dans le cercueil, tout ensanglanté, tout glacé. »
Mary n'aspirait plus qu'à se retrouver auprès d'Alice, non pas seulement pour y rencontrer Jem, mais pour échapper à tout ce qu'elle entendait, pour oublier toutes ces odieuses paroles en écoutant la vieille fille dont les récits d'enfance lui rendraient le calme et la paix. Combien Alice est heureuse, pensait-elle, d'être aussi près de la mort, près de ce monde où le méchant ne peut pas nuire et où le repos attend celui qui est fatigué. Mais l'humble maison de Jeanne était loin d'être en ce moment l'asile calme et paisible que se représentait Mary. L'importance de la somme promise à Mr. Carson à celui qui ferait connaître le meurtrier de son fils était venue se joindre à la sympathie qu'inspirait la douleur d'un vieillard, et plus encore à l'attrait du mystère, au désir de le pénétrer, au besoin d'aventure, à tous ces mobiles qui agissent si puissamment sur la police. Et jamais enquête n'avait été poursuivie avec plus d'entraînement et d'ardeur. Le matin même, des preuves nombreuses avaient été déposées chez le coroner, et le jury des mises en accusation avait déclaré qu'il y avait eu préméditation dans le meurtre dont Mr. Carson, fils, avait été victime. Seulement, plus prudent que le coroner, pour qui le nom de l'assassin ne faisait pas même l'objet d'un doute, il avait ajouté « par une personne inconnue ». Cette réserve avait augmenté l'irritation d'un Mr. Carson père, et ce fut en vain que le chef de la police s'efforça de le calmer en lui représentant que la décision du jury n'était qu'une formalité sans importance, et en lui exhibant un mandat d'amener contre le dit Jem Wilson, accusé jusqu'à preuve contraire du meurtre qu'il s'agissait de punir, il résolut d'employer tous ses efforts pour que la cause fût appelée le lendemain même, et disposa tout pour qu'il en fût ainsi. Il écrivit aux avocats les plus célèbres qu'attiraient les assises, afin d'engager leurs services, et dans son désir d'avoir prompte satisfaction du meurtrier, il eût accepté volontiers l'office de policeman, de guichetier, d'accusateur, surtout celui de juge, afin de prononcer immédiatement la sentence de mort qu'il avait sur les lèvres. Pendant ce temps-là, Jane Wilson, assise auprès de sa belle-sœur, commençait à ressentir les effets d'une nuit sans sommeil. C'était vers le milieu du jour, et malgré tous ses efforts, elle allait s'endormir au chevet de la pauvre malade quand une voix d'homme retentit dans la salle basse et vint la tirer de l'engourdissement où elle était plongée. Elle regarda qui ce pouvait être, et vit un ouvrier qu'elle ne connaissait pas, mais probablement un camarade de son fils, car il portait le même costume et son visage et ses mains étaient assez noirs pour qu'elle pût le supposer. « Peut-on savoir, lui dit-il, si le fusil que voilà n'est pas votre garçon ?» Ne voyant aucun motif pour refuser de répondre, « Je crois bien que oui, répliqua Jeanne, et prenant le fusil pour mieux l'examiner. « Oui, pour sûr, ajouta la pauvre mère, je le reconnais à cette marque. Voyez-vous, c'était le fusil de son grand-père, qui était garde dans un château du Nord. On n'en fait plus comme ça. Je le reconnaîtrai dans 1000. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous l'ayez entre les mains. Jem en est curieux et ne le prête à personne. Il le garde pour aller au tir, où son adresse est fameuse. Non pas qu'il y soit aujourd'hui que sa tante est si malade, et moi qui suis toute seule. » Une fois sur ce chapitre, elle raconta non seulement l'attaque dont Alice avait été frappée, mais encore la perte qu'elle avait faite de son mari et de ses enfants. L'agent de police déguisé l'écouta quelques instants, et ne trouvant plus rien dans ses paroles qui se rattacha au meurtre, il l'interrompit en lui disant qu'il était attendu, et s'en alla bien vite. Ce ne fut qu'après son départ, et quand elle se retrouva dans la chambre d'Alice, qu'elle se demanda pourquoi cet homme avait emporté le fusil, puisqu'elle lui avait dit que c'était bien celui de Jem. « Probablement, pensa-t-elle, qu'il veut aller au tir, ou peut-être qu'il l'a donné pour qu'on le lui raccommode. Après tout, elle n'aimait pas les armes à feu, et ne serait pas fâchée que ce fusil ne fût plus dans la maison. Ce n'était bon qu'à tuer le monde, d'ailleurs, puisque c'était un camarade de Jem. » Et ne s'inquiétant pas davantage de la visite de l'ouvrier, Jeanne s'endormit peu à peu. Toutefois, sans trouver dans son sommeil le repos dont elle avait besoin. L'agent de police s'éloignait avec l'arme précieuse et se livrait aux sentiments divers que faisait naître en lui son apparition chez la veuve. Un peu de mépris, un léger désappointement et une pitié profonde. Il aurait préféré que Mistress Wilson, au lieu de tomber ainsi dans le piège, eût, en essayant de le tromper d'une façon ou d'une autre, exercé la finesse qu'il savait apporter à déjouer toutes les ruses. Quel plaisir offrirait la chasse au renard si l'animal ne faisait nul effort pour échapper à la meute. Et cependant, il éprouvait une sympathie réelle pour cette pauvre mère, dont l'aveu candide allait servir à faire condamner le fils. Néanmoins, il se rendit immédiatement où l'attendait son chef, et le résultat de leur conférence fut que 3 policemen, arrivés à la fonderie qui leur avait été désignée, demandèrent l'ouvrier Wilson à l'inspecteur, et furent introduits dans l'endroit où Jem dirigeait la coulée. Tout ce qu'ils avaient vu jusque-là dans l'établissement était sombre et noir, les visages et le sol des cours. Mais ici, la flamme qui s'échappait de la fournaise en rugissant couvrait de ses lueurs infernales les murs de l'antre où les fondeurs attendaient que le fer, devenu liquide, pût se verser dans les moules préparés pour le recevoir. Les policemen restèrent immobiles devant ce spectacle d'une grandeur imposante. La chaleur devint plus forte, la flamme plus vive, de noirs démons armés des copes de forme bizarre s'approchèrent de la fournaise et le flot étincelant jaillit et s'épancha suivant la direction qui lui était imprimée pour venir se figer dans le sable où il dessinait de fulgurantes arabesques. On pouvait maintenant s'essuyer de front et respirer largement. Le bruit des voix se fit entendre et les fondeurs se dispersèrent pour vaquer aux différents travaux qui les appelaient d'ailleurs. L'un des policemen, celui qu'on désignait sous le chiffre 72, lettre B, montrant alors du doigt Jem Wilson, qu'il reconnaissait pour l'avoir vu engagé dans une lutte avec Mr. Carlson, le fit saisir par ses 2 agents, comme accusé du meurtre sur la personne d'une gentleman que lui, prévenu, avait menacé devant témoin quelques jours auparavant. Jem fit un mouvement de surprise, mais n'opposa pas de résistance, et appelant un de ses camarades, il le pria d'aller dire à sa mère qu'un embarras imprévu l'empêcherait de rentrer le soir. Il désirait qu'elle n'en sût pas davantage. Le sommeil de Mistress Wilson fut donc interrompu de nouveau par un ouvrier, du même état que celui qui était venu la surprendre 1 heure auparavant, si ce n'est que celui-ci, plus noir et plus mal vêtu, inspirait moins de confiance. « Et que voulez-vous encore ?» demanda Jeanne avec humeur. « Oh, ce n'est rien, seulement, » balbutia le pauvre homme, doué d'un esprit assez borné mais d'un cœur très sensible. « Eh bien, parlerez-vous ? » lui dit la veuve impatientée. « Jem, voilà, c'est lui qui m'envoie, parce qu'il est dans l'embarras. »« Bonté divine !» s'écria la pauvre mère. « L'embarras ne finira donc jamais. »« Dans l'embarras ! Et qu'est-ce que ça veut dire ? Est-il malade ? Est-il blessé ? Et parlez donc !»« Non, non, c'est pas ça, il se porte bien. »« Va, qu'il m'a dit. »« Tu diras à ma mère que je suis dans l'embarras, et qu'elle ne m'attende pas, que je ne rentrerai pas ce soir. » « Je suis venu et c'est tout. »« Il ne reviendra pas ce soir. »« Mais il le faut pourtant. »« Moi qui ne peux pas veiller, qu'est-ce que je deviendrai donc avec la vieille Alice ?»« Il faut bien qu'il revienne. »« Mais puisque je vous dis qu'il ne le peut pas, c'est pourtant clair. »« Ah, bien oui, monsieur ne peut pas rentrer. »« Avec ça qu'on m'attrape. »« C'est qu'il est comme les autres. »« Et pourtant, il n'était pas malade. » L'ouvrier voulut partir. Elle se mit devant la porte. Non, vous ne sortirez pas que vous ne m'ayez tout compté. Je vous dis qu'il est dans la peine et que je veux tout savoir. Vous ne le saurez que trop tôt. Qu'est-ce qui peut l'empêcher? Car il sait que je suis seul et qu'Alice est malade. Eh bien, puisqu'il faut tout vous dire, la police vient de le prendre. Mon Jem, vous en avez menti. Lui qui de sa vie n'a fait de mal. Je vous dis que c'est un mensonge. « Du mal, mais je suppose que c'est assez comme ça, » répliqua l'ouvrier qui se fâchait à son tour, « car il est bien prouvé qu'il a tué le jeune Carlson. » Elle voulut battre cet homme, mais l'émotion, la faiblesse, furent plus puissantes que sa colère, et la pauvre femme, retombant sur sa chaise, se couvrit la figure de ses mains. « Oh, c'était pour plaisanter, » reprit-elle après quelques instants. Je vous demande pardon si ce que j'ai dit vous a fâché. Mais, n'est-ce pas? Vous avez voulu rire. Je le voudrais bien, mais on ne rit pas de ces choses-là. C'est bien vrai qu'ils l'ont pris, disant comme ça qu'ils avaient tué ce gentleman. Son fusil a été ramassé auprès de l'endroit où le crime a été fait. Et d'ailleurs, le policeman a dit qu'il avait menacé Mr. Carlson, il y a de ça quelques jours, en se querellant avec lui à propos d'une jolie fille. « D'une fille, mon Jem. Oh que non, répondit-elle en s'indignant de nouveau. « Un ange n'est pas plus rangé que lui. Je vous dis qu'il n'est pas un homme à se quereller pour une fille. » Pourtant, le policeman l'a bien dit, à preuve qu'il l'a nommée une Mary Burton, à ce que j'ai cru entendre. Oh, la coquine! Oh, la drôlesse! Qu'elle vienne encore! Comme je la recevrai! Mon pauvre Jem! Puis, se reprenant tout à coup, « Est-ce fusil? Vous en parliez? Qu'est-ce que vous en disiez donc? » Eh bien, oui, on l'a trouvé sur un terrain, pas bien loin du cadavre. C'est un mensonge. Il était chez un homme qui me l'a montré tout à l'heure, un ouvrier comme vous, un ami de Jem. Connaissez-vous le camarade ? Demanda le forgeron qui s'intéressait vivement au pauvre Jem et à qui cette circonstance rendait un peu d'espoir. Non, je ne l'avais jamais vu, mais il avait la veste et le tablier de travail. Ce pouvait bien être un agent déguisé, dit le pauvre homme en secouant la tête. Oh, c'est impossible. Il n'aurait pas osé. Pensez donc, me tromper à cette fin que j'aille accuser mon fils. Oh non, ce serait noyer l'agneau dans le lait de sa propre mère. Et la Bible défend. Je ne sais pas, répondit l'ouvrier, qui, ne trouvant rien pour dissiper l'inquiétude de la veuve, dont le chagrin lui faisait mal, sortit bientôt sans écouter ce qu'elle lui disait encore. Et maintenant qu'elle était seule, malgré son ardente conviction de l'innocence de son fils, elle eut plutôt douté du jour. Une affreuse douleur, une désolation indicible s'emparait de son âme. Elle était remontée auprès d'Alice et lui raconta l'horrible histoire, espérant la réveiller de sa torpeur et en obtenir quelques paroles consolantes. Mais la malade se mit à sourire et murmura quelques mots sans suite qu'elle adressait à sa mère, ou qui se rapportait aux jours heureux de son enfance.